Nous allons poursuivre par notre sujet principal au cœur de l'April. Un échange avec des personnes qui font vivre l'association. Nous aurons le plaisir d'interviewer Eva Kadziolka, qui est en face de moi au studio. Florence Chabanois, convenons d'entendre, qui est également au studio. Benjamin Bellamy, qui est également au studio. Et G, qui a préféré rester chez lui, mais on le comprend, il habite quand même loin. Et ces personnes vont nous parler de leur contribution à l'April, de leur arrivée à l'April. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à notre conversation 09 72 51 55 46, et je répète 09 72 51 55 46. Je ne vous donne pas le salon web de l'émission car aujourd'hui il ne fonctionne pas et cela n'a rien à voir avec Cloudflare qui est planté, c'est juste un problème technique. Donc on va commencer par Eva. Bonjour Eva.
Bonjour.
Alors c'est pas la première fois que tu viens en plus au studio, mais j'en reparlerai tout à l'heure en fin d'interview. Déjà une petite question rapide de présentation. Qui es-tu?
Je m'appelle Eva Kadziolka. Je suis polonaise d'origine. Je suis développeuse web full stack de reconversion.
Alors explique-nous ce que c'est qu'une développeuse full stack.
Cela veut dire que je m'occupe un petit peu de tout ce qui est de front et de back d'une application web. Tout ce qu'on voit et tout ce qu'on est un petit peu l'éventrail de.
D'accord, donc le front, c'est ce que les personnes utilisent.
Oui.
Et le back office, c'est.
Pour alimenter le front.
D'accord, ok. Alors comment tu as connu le logiciel libre?
Logiciel libre, la première fois que j'ai entendu des logiciels libres, c'était pendant mon stage.
Où ça?
Je commençais ma formation à Conexio et là-bas il fallait que je fasse le stage de 6 mois à Iroko. C'était une toute petite start-up où ils sont en train d'écrire une boîte email éthique.
D'accord.
Et écologique et adaptée aussi aux personnes handicapées. Et justement, c'est là-bas, on m'a montré qu'est-ce que le premier logiciel libre, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et comment alimenter un petit peu ces logiciels et comment faire en fait.
D'accord. Donc quand tu parles de reconversion, avant, si je me souviens bien, tu étais notamment dans l'éducatrice spécialisée à un moment, c'est ça?
Oui, j'ai travaillé avec les enfants autistes comme intervenante à BA.
D'accord. Alors je le précise tout de suite et je préciserai aussi pour Florence un peu d'auto-promo, mais c'est normal. Quand je disais que ce n'était pas la première fois que tu venais dans le studio, c'est que tu as eu, c'est Julie Chaumard qui t'a interviewé dans le cadre de l'émission Chemin de Traverse pour oui. Présenter ton parcours. Donc c'est une émission de Cause Commune, hein. Vous allez sur causecommune.fm, émission Chemin de Traverse, c'est l'émission 33. Donc c'est une émission que j'ai le plaisir de co-animer sur les parcours de vie avec Julie. Et j'en parlerai tout à l'heure aussi avec Florence qui est venue 2 fois. Donc si vous voulez en savoir plus sur le parcours d'Eva qui vient comme elle vient de Pologne et qui a fait d'autres métiers avant de devenir développeuse full stack, vous écoutez Chemin de Traverse, émission 33. Donc ça c'est la découverte du logiciel libre. Et comment tu as découvert l'April? Parce que là c'est très récent.
April, j'en ai découvert il n'y a pas très longtemps justement. C'était en mars de cette année. C'était grâce aux Ladies of Code. C'est une communauté sur Internet, un petit peu, qui est aussi à Paris, c'est des femmes dans la tech. Et c'est elles aussi qui m'ont un petit peu aidé de me reconvertir. Mais c'était une autre histoire. Et dans un des channels sur le Slack de Ladies of Code, il y avait un appel au speaker. Et il y avait une proposition de faire une petite présentation pendant le AG d'April.
Oui, pendant l'Assemblée Générale, enfin avant l'Assemblée Générale, le matin.
Oui, 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 juste avant, on pouvait proposer les différents sujets. Et du coup, je proposais comme sujet le langage, présenter le langage Logland 82. Qui était travaillé en Pologne pendant le communisme, comment ça s'est développé et pourquoi ce langage, bien qu'il n'est plus utilisé, il peut être très important aussi aujourd'hui.
D'accord. Alors juste pour préciser le contexte, donc chaque année, donc il y a l'assemblée générale de l'association qui a lieu l'après-midi un samedi, donc qui est réservée aux personnes membres. Mais le matin, on fait ce qu'on appelle des conférences éclairs, donc c'est des sessions ouvertes à toute personne. On fait un appel à proposition et les gens viennent pour intervenir. Alors conférence éclair, ça veut dire que c'est de mémoire, je crois que c'est 6 minutes qu'on propose.
Oui.
L'idée étant en fait de multiplier les interventions, de permettre de voir beaucoup de sujets. Et donc on avait largement diffusé l'appel à conférence pour avoir des gens en dehors évidemment de l'association et en dehors de des gens qu'on connaissait. Ce qui fait que la proposition était intéressante parce que le langage dont tu parlais, objectivement, personne n'en avait entendu parler chez nous. Voilà. Et donc, tu es venu, c'est la première fois que tu es venu à l'April, donc tu n'étais pas membre, et je crois bien que tu es devenu membre l'après-midi, c'est ça?
Oui, oui, oui.
D'accord. Donc, finalement, tu es resté, tu es devenu membre. Qu'est-ce qui t'a plu, en fait?
Parce que. En fait, ça m'a beaucoup plu, déjà l'ambiance. Quand je parlais avec les gens, c'était vraiment super. Deuxième chose qui m'a plu vraiment, c'est cette ouverture, parce qu'il y avait pas mal, il y avait des femmes, il y avait des hommes qui pourraient parler. Il y avait une diversité des sujets aussi qu'on pourrait voir. Et aussi, j'ai eu le temps, quand je parlais avec les gens, de connaître un petit peu plus le cause d'April, et cela m'a vraiment tenu à cœur, et ça m'a plu vraiment de défendre ce logiciel libre qu'on a besoin, que c'est pas seulement que les enjeux sont vraiment très très importants au niveau pas seulement en France, mais vraiment mondial.
Oui, d'accord. Donc, c'était cool pour nous aussi, parce que finalement, on a une intervente le matin qui vient nous parler d'un logiciel qu'on ne connaît pas, et finalement, elle est tellement convaincue de l'accueil qu'elle reste l'après-midi pour devenir membre. Alors, en plus, toi, tu as été encore plus loin, parce que tu n'es pas juste membre de l'association, entre guillemets, et c'est déjà beaucoup d'être membre, parce que c'est un soutien important. Tu es devenu aussi bénévole, parce que depuis que tu es arrivé, donc depuis mars 2025, aujourd'hui nous sommes le 18 novembre 2025, tu as participé à l'animation de 3 stands de l'April. C'est-à-dire qu'on est présent sur pas mal d'événements, et à chaque fois, on essaie d'avoir des gens qui animent le stand, c'est-à-dire tout simplement des personnes qui sont présentes pour répondre aux questions. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé finalement, alors que tu venais juste d'arriver à l'April, à proposer ta présence sur le premier stand? Alors, je crois que le premier stand, c'était en Essonne, à Vigneux-sur-Seine.
Oui.
C'est ça?
Oui, oui. Oui, oui. Premièrement, j'avais le temps.
Ah, c'est bien.
Ça, c'est important quand même, parce que j'avais ce temps à consacrer. Et je voudrais aussi mieux connaître April et mieux connaître d'autres gens. Et je voudrais aussi parler de ces logiciels libres, des différents logiciels libres, des différentes possibilités, justement, d'un petit peu de casser ce monopole de ce qu'on connaît déjà de Microsoft, et d'autres grandes compagnies, et montrer, oui, il y a les petits logiciels qu'on peut utiliser, qui peuvent être plus écologiques, qui peuvent être plus libres, plus accessibles, plus souveraines aussi, c'est important, surtout maintenant. C'est ça que je voudrais, premièrement, apprendre plus et apprendre aux autres.
D'accord. Donc, l'idée, c'est comme tu dis, déjà d'apprendre mieux le logiciel libre, ce que ça recoupe, mais aussi finalement de la transmission de savoir. C'est quelque chose qui te paraît important. C'est aussi pour ça que tu es venu faire cette conférence finalement, je pense, et pour faire connaître un logiciel qui certes n'est plus utilisé, mais qui te paraissait intéressant. Et là, sur les stands, c'est la transmission par rapport au public. Et c'est quelque chose que tu faisais avant, sur parler comme ça avec des gens pour essayer de les convaincre finalement sur quelque chose?
Je plus travaillais vraiment avec les enfants, c'était plus tête à tête. C'est vrai, c'était la première fois que j'ai osé sortir un petit peu de mon zone de confort.
Mais... D'accord.
Mais c'est toujours enrichissant de sortir de ce qu'on faisait avant. De faire cette pas en avant.
Oui. Et au niveau donc de l'organisation, c'est plutôt ma collègue Isabella Vanni qui s'occupe de l'organisation des stands. En plus, elle prépare beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de documentation qui est prête, elle échange beaucoup avec vous, et puis vous n'êtes pas seul, il n'y a jamais personne seul sur un stand de mémoire.
Non, il y a toujours d'autres bénévoles qui viennent, on est d'habitude 2-3.
D'accord. Et est-ce que tu as été surprise par certaines questions que le public se connaissait, pouvait poser, ou finalement tu t'attendais un petit peu aux questions qu'elle allait te poser? Quel type de public d'ailleurs c'était? Parce que tu as été présente donc à un salon, donc à Vigneux-sur-Seine en Essonne, à Paris-Saclay, place des associations, et au festival de la réparation récemment, donc c'était le 25 octobre je crois à Paris. Oui. Donc c'est pas forcément des gens qui connaissent le logiciel libre majoritairement. Donc c'est quoi leurs questions, quel est leur centre d'intérêt quand ils viennent sur le stand de l'April?
Premièrement, ils voulaient savoir qu'est-ce que le logiciel libre. Il y avait pas mal de personnes qui demandaient. Il y avait les enfants aussi qui voulaient les tatouages.
Ah, alors, les précise que ce sont ces tatouages qui sont des tatouages temporaires, évidemment.
Oui. Ce sont
c'est des petits gnous, c'est ça?
Les petits gnous qui a fait la sensation surtout à Vigneux.
D'accord.
Et du coup, de parole à parole, c'était aussi avec les enfants, c'était les parents qui venaient, qui commençaient à poser des questions. Pourquoi, comment, pourquoi c'est important. Et aussi, ils ont partagé leur expérience avec logiciel libre. Deuxième fois, c'est à qu'on était à l'université
Paris-Saclay.
Il y avait beaucoup d'étudiantes qui sont venues, surtout que c'était à l'époque où l'université voulait vraiment passer sur Microsoft. Et du coup, ils demandaient des conseils, comment persuader les enseignants et les doyens de l'université d'utiliser toujours le logiciel libre qu'on a au lieu de payer et d'être dépendant d'un logiciel qui est en Amérique, en fait.
D'accord.
Parce que c'est aussi l'enjeu des données et plein de choses.
Et je suppose qu'au dernier événement, donc le festival de réparation en octobre, c'est plus des personnes qui sont intéressées par la pérennité, soit des objets qu'ils utilisent, soit des logiciels qu'ils utilisent. Donc peut-être des personnes qui avaient déjà entendu parler de logiciels libres ou pas?
Certains, oui.
Ouais.
Et certains, ils ont demandé ce qu'on fait. On leur a présenté, surtout justement maintenant avec le problème avec Windows 10 qui n'est plus...
Les mises à jour de sécurité qui sont... Enfin, ça a été prolongé d'un an, mais oui.
Et du coup, ils demandaient, est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce que c'est possible, justement, de faire quelque chose d'autre? Et c'est comme ça qu'on leur a parlé de Linux et d'autres OS qui sont basés, justement, sur Linux et où ils peuvent changer leur...
Leur système. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu te... Parce que être sur un stand, c'est pas forcément très évident, parce que c'est des gens des fois qui débarquent, qui posent des questions qui sont pas forcément toujours, on n'a pas forcément toujours la réponse, ou des gens qui sont pas forcément toujours agréables. Est-ce que tu te sens de mieux en mieux sur les stands par rapport au fait que c'est ton troisième stand? Est-ce que tu vois une évolution par rapport à ça?
Ah oui, c'est beaucoup plus facile. Au début, je savais rien du tout parce que je viens d'arriver, je savais même pas comment disposer des choses. Ensuite, petit à petit, c'est beaucoup plus facile aussi quand on s'écoute mutuellement. C'est plus facile, en fait. Il y a aussi les gens qui arrivent aussi avec des informations qui sont très intéressantes.
D'accord.
C'est un dialogue permanent. Je pense que c'est ça aussi très intéressant parce qu'on s'enrichit tous les temps. Et c'est aussi plus facile de répondre aux questions que les gens peuvent avoir.
D'accord. Cool. Est-ce que tu as une actu à annoncer? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Après, tu pourras réintervenir si tu veux, hein, mais c'est juste pour pas oublier.
Maintenant, je voudrais parler de petites toute petite LLM, intelligence artificielle,
oui,
qui est open source, dans la limite où une intelligence artificielle peut être open source, c'est le Bielik. C'est une intelligence artificielle polonaise qui est
D'accord.
spécifiquement dédiée à la langue polonaise, qui est vraiment toute petite, qu'on peut installer déjà sur son ordinateur. Et c'est tout particulièrement adapté pour tout traitement de texte, textes pour tout en polonais, et c'est déjà utilisé dans les institutions polonaises quand on les entraînait justement avec les données polonaises, et les données qui sont des entreprises qui sont en Pologne. Et qui sont vraiment limités parce qu'on peut vraiment les couper d'Internet, et de dire que justement c'est possible, mais même maintenant avec intelligence artificielle, c'est possible de faire une petite ChatGPT à soi qui est complètement libre et qu'on peut utiliser. Il y en a déjà pas mal qui, par exemple, Lama qui je pense qui est aussi libre.
Alors bon, c'est un sujet, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui.
Mais je sais que ce qui concerne les intelligences artificielles, c'est très difficile de les faire vraiment libre, open source, libre. Mais disons que c'est, dans la limite que c'est possible, c'est libre.
D'accord, ok. Bon, peut-être qu'un jour on traitera ce sujet qui est complexe et qui recoupe beaucoup de réalité et puis d'enjeux. Mais écoute, merci Eva. De toute façon, tu restes avec nous si tu veux réagir. On va passer donc à Florence, hein, Florence Chabanois, qui était donc tout à l'heure dans sa chronique. Bah écoute, ça va être un peu les mêmes questions. En tout cas, la première, c'est la même te présenter un petit peu. Qu'est-ce que tu fais?
Du coup, moi, j'ai une formation en informatique. Là, je suis directrice ingénierie et cofondatrice de l'association La Place des Grenouilles,
qui
est une association antisexiste. Donc, l'idée, c'est de mettre à disposition des ressources pour avoir conscience des injonctions de genre et de pouvoir s'en affranchir.
Et donc l'association qui organise notamment donc un atelier sur les jeux féministes.
Ah oui, je l'ai gardé pour la question de la fin. Oui,
d'accord,
et on organise.
Bon, bah tu le répéteras. Comme la répétition permettra aux gens. De toute façon, je pense qu'il y aura le lien dans la page de l'émission du jour. Donc bah même question qu'à Eva. Comment tu as connu déjà le logiciel libre?
Alors moi, c'est mon cousin qui était assez militant dessus en 2000. Du coup, quand j'ai commencé l'informatique, pour moi, c'est venu ensemble en fait, la partie informatique et logiciel libre. Après, j'en ai toujours utilisé et j'ai été sur Linux assez rapidement, mais je pense que, enfin, assez rapidement en faisant des études en informatique, je veux dire. Mais je restais quand même sur une vision plutôt usagère. Je trouvais que c'était mieux, mais je trouvais pas ça forcément réaliste, on va dire. Je parle longtemps parce que j'ai plein de notes. Ouais, vas-y.
Non, c'était quoi, le dernier mot, j'ai pas compris.
Réaliste en termes de système, enfin de.
D'accord. Bon, après, c'était en 2000, c'était il y a 25 ans.
Oui.
Donc ça a progressé depuis aussi.
Oui, 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 clairement, clairement.
Quand même.
Clairement. Bah après, j'ai quand même eu le temps de voir Mandrake qui tenait la route quand même. C'était pas que du Gentoo ou des Debian.
Alors là, c'est des distributions libres. Mandrake, c'est une des premières, notamment françaises,
ouais,
qui n'existe plus aujourd'hui. Et non, Mandrake n'existe plus. En tout cas, la structure Mandrake n'existe plus. Ce qui est devenu la partie communautaire s'appelle Mageia maintenant.
D'accord.
Mais ça existe toujours, mais c'est plus une entreprise derrière. Et Gentoo, donc il y a aussi un environnement libre. Alors pour personnes très avancées, et Debian est aussi un environnement libre utilisé par exemple à l'April, à la fois sur les postes de travail de l'équipe salariée et sur les serveurs. Donc il y avait une connaissance de chez lui il y a 25 ans quand même. Donc une ancienne connaissance.
Oui, enfin, mais je connaissais de loin, parce que je connaissais Stallman aussi par ses exubérances.
Donc Richard Stallman. Par ses
exubérances,
d'accord.
Du coup, pour moi, c'était quelque chose que je voyais de loin, mais c'était un peu des hippies, quoi.
D'accord. Ok.
Voilà.
Et la découverte de l'April.
La découverte de l'April, c'était.
Peut-être que c'est l'April qui t'a contacté. Peut-être, je ne sais plus en fait.
Non, je connaissais de nom quand même. Justement, je pense via différentes initiatives sur le site de LinuxFR, vous apparaissez quand même assez souvent, mais pas au point que ce soit vraiment identifié dans ma tête. Par contre, là où je me rappelle plus spécifiquement de m'être rappelé, enfin d'avoir découvert l'April, c'était quand j'étais dans l'équipe corps des Duchesses et qu'il y a eu un message relayé par Agnès Crépet, sur une demande d'intervention pour participer à une émission de radio. Et j'en profite pour faire encore le pont par rapport à la question de tout à l'heure sur le libre. J'ai quand même eu un switch un moment sur le fait que je m'intéresse au libre, parce que je trouvais ça intéressant sur la démarche, le côté commun, le côté transmettre et rendre ça accessible à tout le monde. Mais pour moi, c'était vraiment un monde quand même lointain. Et avec les Duchesses, j'avais participé à un hackathon. Mais je trouvais pas que j'avais tellement le niveau. C'est là où ça a fait que ça a pas duré. Mais le vrai switch, c'était un open source expérience avec encore Agnès Crépet, qui a fait une conférence dessus sur la durabilité et les apports du libre, vraiment par rapport à l'obsolescence programmée et l'aspect plus politique. Ça m'a vraiment convaincue.
J'ai juste précisé qu'Agnès Crépé donc est responsable de la logiciel et durabilité, je crois, chez Fairphone, donc le téléphone.
Je crois qu'elle est responsable R&D, non? Innovation.
R&D? Je me souviens plus de tête. Voilà. Mais en tout cas, c'est Fairphone.
Fairphone.
Voilà. Parce que sinon, pour les personnes qui se demandent qui est Agnès Crépé, c'est Fairphone et elle est déjà intervenue dans les émissions Libre à vous. Donc effectivement, le lien avec l'April et ton arrivée un petit peu dans la partie bénévole, en tout cas la contribution, c'est la première fois, c'est notamment en 2022 quand on t'a contacté pour participer à une émission autour du, alors c'était le recrutement, je crois, dans le Libre, hein, c'est ça?
Je pense, oui. En tout cas, c'était avec Marcy.
C'était avec Marcy Charolois, effectivement, parce que c'était suite à une de tes conférences à Mixit, donc qui est un événement inclusif informatique à Lyon, donc qui était en 2022. Comment recruter des femmes dans un milieu d'hommes et enfin avoir des équipes diverses et la compétence à l'heure? Alors, j'ai noté ça.
Oui. En fait, c'est intéressant parce que c'était complètement le titre.
Donc ça nous a intéressé. On s'est dit tiens, c'est un sujet qu'on aimerait traiter. Elle en fait une conférence et comme on a mis à avoir deux personnes invitées dans chaque sujet principal, excepté les au cœur de l'April qui sont un peu particuliers, on a invité une autre personne qui connaît bien le sujet, qui est donc Marcy Charolois. Et donc vous êtes intervenu. Alors ça a pris un peu de temps. Vous êtes intervenu en 2024, hein. Je crois. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a pris le contact. Ouais.
Oui. Et en plus, en fait, moi, je te connaissais encore d'avant parce que comme je faisais partie des Duchesses, mais du coup, je sais pas si tu savais que c'était moi. Et je pense pas, vu l'échange qu'on a eu antérieurement.
Ah.
Mais t'es assez persévérant. Et du coup, t'as tendu plusieurs perches aux Duchesses auxquelles on a répondu ou pas. Et il y avait une autre intervention où j'avais moi accepté. En tout cas, c'était une participation à la fête de l'humanité. Et donc ça, je pense que c'était avant quand même la conférence.
Ok, d'accord. Oui.
Et puis il y a d'autres choses où j'ai aussi répondu au nom des Duchesses à chaque fois.
Alors explique qu'est-ce que sont que les Duchesses France.
Les Duchesses, alors du coup, c'est une association pour les femmes, enfin pour augmenter la visibilité des femmes dans l'informatique. Et aussi pour les femmes dans l'informatique.
D'accord.
Donc c'est un espace communautaire.
Voilà, on est assez persévérant, c'est vrai. Et comme je disais tout à l'heure, Eva sur les conférences éclairs à l'AG, effectivement, on fait un travail pour essayer d'avoir des intervenantes, parce que si on fait juste l'annonce, on sait qu'on les aura pas. Donc pour cela, une des façons, c'est d'aller contacter les structures d'informaticiennes, pas forcément libristes d'ailleurs, donc Duchesse c'est pas forcément libriste, et la place des grenouilles non plus parce que c'est beaucoup plus large, même pas informatique. Donc il y a cette démarche là, quoi. Donc t'es intervenu, finalement c'est plutôt bien entendu, ça a plutôt bien fonctionné, et dans les équipes des chroniques, en septembre 2024, on t'a proposé de rejoindre l'équipe des chroniques. Parce que chaque année, on essaye un petit peu de faire évoluer les chroniques, et notamment une chronique sur celle que tu as faite ce matin, tout à l'heure, là, FHX.
Oui.
Et c'est comme ça que tu es arrivé dans l'équipe des chroniques de Libre à vous. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire une chronique qui est un petit peu un pas de côté, quoi, par rapport aux chroniques plus techniques que peuvent faire les autres personnes, et plus libristes, entre guillemets, que peuvent faire les autres personnes de l'équipe?
Alors, en fait, pour moi, il y avait le cas. J'ai l'impression que l'enregistrement avec Marcy, on l'a fait il y a pas si longtemps. Alors peut-être que je me trompe, mais que encore avant d'arriver à vraiment faire ce fameux enregistrement, même si on a échangé entre temps, on a fait au Café Libre avant. Et ce qui m'a fait accepter au Café Libre, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, ouais, je me sentais pas super légitime sur la partie open source parce que j'ai jamais contribué en tant que codeuse sur de l'open source. En plus, j'ai jamais vu de femmes en faire, même s'il y en a en réalité. C'est le fait que c'était un format assez informel, que ça traitait d'un sujet qui m'intéressait, les logiciels libres, où j'étais pas experte, mais c'était l'occasion de me pencher dessus, et que le format café est assez sympathique pour le coup.
Alors je précise, donc l'émission avec Marcy, c'était en novembre 2024, donc
d'accord,
il y a quand même un an déjà, même si effectivement ça a pris un peu de temps vu que je t'avais contacté en 2022 pour diverses raisons. Donc t'as rejoint l'équipe des chroniques sur cette chronique FHX, et puis t'as aussi rejoint donc l'équipe au Café Libre, donc le prochain Café Libre c'est la semaine prochaine, le 25 novembre, où c'est des gens qui débattent autour de l'actualité du logiciel libre. Et donc tu as, alors je sais plus quand est-ce que tu as rejoint au Café Libre, mais
fait un an et demi.
Ça fait un an et demi, donc tu as participé pendant un an et demi. Qu'est-ce qui t'intéressait dans cet aspect finalement débat autour du libre, alors que même toi tu dis que finalement le libre c'est un petit peu à côté pour toi, quoi.
Je pense que c'est important en fait que les femmes soient visibles et participent à ces sujets-là. En plus, moi je dis que même si on se sent pas légitime, il faut quand même le faire parce que les hommes se posent pas cette question et que c'est important d'apporter des points de vue différents ou pas différents, mais en tout cas d'exister, et après on verra si c'est différent ou pas. Donc pour moi, c'était aussi incarner ce que je prône, qui a fait que j'ai participé. Après, je pense que tu m'étais sympathique en vrai, parce que je vais pas dire que t'es un stalker, parce que c'était pas du tout une posture de stalker, mais je veux dire, on voyait que.
Explique ce qu'est un stalker, s'il te plaît.
Un stalker, c'est quelqu'un qui demande de façon répétée la même chose, alors que la personne ne veut pas ce genre de sollicitation. Moi, c'est pas que je veux pas, c'est juste que c'était pas le moment. Les fois où tu as demandé, et à chaque fois que tu as posé la question, c'était une vraie question. Le nom était entendu, si c'était un nom, c'était vraiment c'était une vraie question. Et du coup, c'est là où petit à petit, c'est vraiment à la longue que je me suis dit pourquoi pas tester quelque chose avec eux et elles. Et pourquoi j'ai accepté, donc c'était par curiosité. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé que c'était un peu comme Eva, hein, que c'était une super ambiance, que les gens étaient trop cool. Bon, dit comme ça veut rien dire, mais c'est vrai que j'avais l'impression d'être avec des gens avec qui je partage des valeurs. Voilà, donc c'était ça, même si c'était quand même assez vague. Et aussi le format radio, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Moi, j'avais donné des conférences et fait des podcasts, enfin, participé à des podcasts, et le côté direct, c'était nouveau. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et pour répondre à ta question d'avant sur pourquoi FHX, qui est un sujet effectivement annexe quand même au monde du libre, c'est que c'est un sujet qui est important pour moi, mais que j'assume pas vraiment. Dans le sens où dans le monde pro, je vais plutôt parler d'informatique. Après, en parallèle, j'avais créé l'association La Place des Grenouilles. Mais du coup, les gens qui viennent vers nous ont déjà envie d'entendre ces sujets-là.
Donc, c'est des personnes déjà intéressées,
exactement,
déjà sensibilisées.
C'est ça. Et du coup, là, de dire, proposer une émission sur un sujet, sur l'antisexisme, ou en tout cas qui vont parler des normes de genre ou de comment vraiment parler à tout le monde. Bon, je sais pas très bien comment ça va être vécu, mais le fait que tu l'aies proposé, je me suis dit je ne peux pas ne pas le faire, dans la mesure où c'est justement toucher un public que j'ai pas l'habitude de côtoyer pour ces sujets-là, mais que j'ai l'habitude de côtoyer de par ma vie professionnelle, parce que sinon chacune reste entre eux et elles, et du coup on n'avance pas, quoi. Voilà, donc c'est ça, et c'est aussi parce que le monde du libre, avec seulement des hommes, qui est déjà assez incarné par des hommes, on va se retrouver avec des angles morts qu'on a déjà vus dans le passé sur des logiciels propriétaires d'ailleurs.
Alors tout à fait, d'ailleurs c'est pour ça qu'on tenait à cette chronique, qui est un peu un pas de côté, mais qui a un pas de côté important, et c'est vrai qu'on te l'a proposé parce qu'on avait déjà échangé, parce que tu participais au Café Libre, parce qu'on t'étais venu intervenir avec Marcy. Alors mon collègue Étienne me précise que c'est juin 2024 avec Marcy, en novembre c'est une rediffusion, et qu'on savait qu'effectivement ça allait correspondre à ce qu'on voulait. Et est-ce que toi tu voulais aussi? Et je précise qu'on a, je crois que c'était l'an dernier ou peut-être en juin 2025, on a fait un questionnaire auprès de l'auditorat. Alors, l'auditorat principalement podcast, hein, parce que c'est un peu compliqué de toucher l'auditorat FM. Et en fait, on avait posé des questions par rapport à chacune des chroniques, hein, alors des questions adaptées à chaque chronique. Et les gens qui faisaient des retours sur ta chronique étaient tout à fait ravis et nous encourageaient à continuer.
Oui, comme quoi, t'as bien fait de proposer ça.
Alors, comme quoi, on a bien fait. L'April, c'est pas que moi qui ai proposé, même si j'ai réel. Contact, parce que je te connais mieux que mes collègues, mais en tout cas voilà, parce que quand on a proposé ce sujet-là, effectivement on s'est posé la question comment ça allait être pris, et en fait dans le retour des chroniques, les gens étaient vraiment enchantés de cette thématique. En plus à chaque fois alors moins aujourd'hui parce que mais tu fais toujours un lien souvent avec la partie logiciel libre, avec des conseils ou autres, et donc en tout cas les retours étaient très positifs. Donc même question à Eva, est-ce que tu as une actu, une annonce, donc à part, là, tu peux le redire pour jeudi soir.
Alors, jeudi soir, l'association La Place des Grenouilles organise une soirée jeux féministes. Donc, c'est gratuit, mais sur inscription et ouvert à tout le monde. Et le 22 septembre, manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà, donc c'est une façon aussi de se ressourcer et de se faire plaisir.
Et alors, il y a plusieurs jeux, et j'ai vu qu'il y en a dont le titre m'a fait mourir de rire. C'est Le Cœur des Obes. Sur j'ai oublié le terme. La contraception masculine. Mais rien que le titre du jeu, quand j'ai regardé la page, ça m'a fait mourir de rire. En tout cas, voilà. Je vous encourage à suivre La Place des Grenouilles. Les liens sont dans la page consacrée à l'émission du jour. Et si ça n'y est pas, on va les rajouter. Tiens, on va pas faire de pause musicale. On va enchaîner directement. Et puis, pareil, si vous voulez réagir, n'hésitez surtout pas. Parce que je vois quand même que le temps file, en fait. Donc, on va passer à Benjamin. Donc, qui est aussi un chroniqueur. On attendra sa chronique après Benjamin. Alors lui, c'est un peu différent. D'abord, je vais te poser quand même la première question, te présenter en fait, en quelques mots.
Oui, bonjour, je m'appelle Benjamin.
Benjamin Bellamy.
Je m'appelle Benjamin Bellamy. En trois mots, moi j'ai commencé l'informatique dans les années 80. Je suis aussi vieux que ça, oui, oui.
T'as quel âge ?
J'ai 50 ans.
D'accord. Ah mais t'as commencé, toi. Oui d'accord, d'accord, ok. J'ai cru que t'avais commencé professionnellement dans les années 80.
Alors non, j'ai commencé professionnellement oui. en 91, à 16 ans. D'accord. Je faisais des bases de données Microsoft à l'époque.
Access, donc, c'est ça ?
Exactement. On voit les connaisseurs.
Ah bah je crois que dans le monde de la base de données, dans cette génération-là, à peu près tous ceux qui ont un rayon d'informatique ont fait de l'Access.
On a tous fait de l'Access. J'ai commencé avec Windows 2. Alors j'ai commencé avec MS-DOS 4, puis 5, puis Windows 2. 3.11, enfin, j'ai été biberonné à Microsoft. J'ai un diplôme d'ingénieur en informatique, je l'ai à l'effraie. J'ai fait ma carrière essentiellement dans le service, j'ai fait pas mal d'e-commerce, j'ai vendu beaucoup de livres sur internet, en librairie, un peu partout, et j'ai été sensibilisé au logiciel libre, bah, je pense un peu comme tout le monde, parce que c'était gratuit. De mémoire, le premier logiciel libre que j'ai utilisé, ça devait être GIMP.
Alors, c'était en quelle période à peu près?
Ah, je serais incapable de dater ça. Mais j'ai utilisé des très très vieilles versions de GIMP qui étaient pas du tout stables. Je me suis acharné dessus. Hein. J'ai jamais lâché l'affaire. Tout le monde s'est moqué de moi. Aujourd'hui, je continue d'utiliser GIMP quasiment tous les jours. C'est vraiment un truc que j'adore. Et la raison, c'était parce que c'était gratuit.
Alors, on va préciser, GIMP, c'est un outil de manipulation d'images.
Exactement. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup utilisé Paintbrush.
Et qui a beaucoup progressé.
Et qui a énormément progressé.
Et qui a très peu de développeurs, parce que je crois qu'il y a une personne, principalement, qui est payée pour ça par une université. Mais par contre, qui progresse, parce qu'il y a pas mal de bénévoles qui travaillent dessus.
Ouais. Et c'est super stable. Ça permet de faire énormément de choses. Et donc ça, c'est la porte d'entrée. Et je pense que c'est pas honteux, hein. Faut pas avoir peur de dire que le logiciel libre, ben, souvent, les gens, ils y vont parce que c'est gratuit. Par la suite, ce qui m'a intéressé, moi, c'est que c'était open source. C'est de, ben, on peut savoir comment c'est fait, on peut regarder ce qu'il y a dedans, on peut le modifier. Ça me paraît fondamental. Et aujourd'hui,
excuse-moi, juste là, cet intérêt, il est pour en tant que développeur finalement.
Il est en tant que développeur bidouilleur.
Voilà.
Et même il y a pas forcément besoin d'être développeur pour se dire, mais comment ça se fait que ça fait ça. C'est avoir la possibilité d'ouvrir le capot et de comprendre comment ça marche. Typiquement, GIMP, je vais jamais regarder le code source. Hein. Et donc ça, c'était la deuxième étape, c'était vraiment le côté open source, sachant que on fait souvent un amalgame entre open source et libre. Je pense que c'est pas très grave du tout, hein, parce que globalement, il y a souvent une adéquation entre les deux, ce qui est libre et open source et ce qui est open source et libre. Mais...
Alors c'est quoi ta différence entre les deux ? Parce que là, soit tu l'as fait, soit tu t'arrêtes sur ce sujet-là parce que tu vas perdre les gens qui nous écoutent.
Alors, la différence, en fait, il y a une différence et elle est fondamentale. Je pense juste qu'il ne faut pas se battre si certains utilisent un mot pour l'autre.
D'accord.
Et c'est pour ça que je disais, je suis passé au libre parce que c'était gratuit, puis parce que c'était open source, c'est-à-dire open source, on a accès au code source, donc en gros, on a le droit d'ouvrir le capot. Logiciel libre, en fait, c'est fondamentalement différent. Logiciel libre, c'est une licence d'utilisation. C'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire d'après le contrat du logiciel. Et un logiciel libre, on a le droit de l'utiliser comme on veut. C'est la règle numéro zéro, hein, de Shera Stallman, qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça change tout. On peut très bien avoir des logiciels dont on a le code source, mais qu'on n'a pas le droit d'utiliser comme on veut.
Ok, je vois la différence que tu fais. Voilà.
Et le droit de l'utiliser comme on veut, sans restriction de personne, de géographie, de etc. Bah c'est fondamental. Tout à l'heure, on parlait de LLM open source. En fait, on dit LLM open source.
LLM,
c'est un large language model, donc un grand modèle de langage. En gros, c'est ChatGPT, hein, c'est ces technos-là. Aujourd'hui, il y a de l'open source washing là-dessus, hein, parce que la plupart des modèles LLM open source dont on parle, comme Llama, ne sont pas du tout open source. Ils sont open weight, c'est-à-dire que on peut le prendre et puis l'installer comme on veut, mais on n'a pas accès à ce qu'il y a dedans, on peut pas tout reproduire, et surtout on n'a pas, si on prend Llama, les licences d'utilisation sont ultra restrictives.
Tout à fait. Ok.
Bon. Et donc aujourd'hui, moi, le logiciel libre, ça m'intéresse parce que c'est une question de liberté fondamentale et de démocratie. C'est un choix politique.
Là, nous sommes d'accord comme différence avec l'open source, en fait. Nous sommes d'accord là-dessus.
Oui, c'est-à-dire que open source, c'est technique.
Voilà.
C'est technique. Voilà. Bah, t'as les plans de fabrication. Ça peut être business aussi. C'est ah, regardez mon logiciel, il est open source. Venez l'acheter parce que ça se vend. Il y a pas libre, c'est bah c'est ce que ça veut dire, c'est la liberté. J'ai le droit de faire ce que je veux et on peut pas me l'interdire. Même la personne qui l'a créé ne peut pas me l'interdire.
Donc ça, c'est la rencontre avec le libre, ton intérêt pour le libre. Je te coupe parce qu'en fait le temps avance. Comment t'en es venu à proposer une contribution à l'April? Alors toi, ta contribution, c'est carrément, tu nous as proposé plutôt de, tu nous as proposé de faire une chronique.
Alors j'écarquille les yeux parce que je ne sais plus, mais c'est
alors, possible. Alors là, je suis assez tranquille, comme je l'ai dit, que c'est ma collègue Isabelle Avani qui a préparé l'émission, mais qu'elle ne pouvait pas l'animer, c'est elle qui a regardé dans les archives et sur mon petit papier. Alors j'ai l'impression d'être un journaliste, tu sais, de France Inter ou quelqu'un d'autre lui a préparé un petit papier qu'il va lire. Donc voilà, dans le cas de Benjamin, c'est lui qui a pris contact avec nous en nous proposant une chronique dans Libre à vous. Et ta première chronique, c'était en octobre 2024. Donc,
C'est une fake news.
C'est une fake news. Le dirai. Alors.
Parce qu'en fait, alors déjà, moi, je connais l'April depuis très longtemps. Je pense que j'ai adhéré à l'April par la société Adoresse que j'ai créée en 2020, si je dis pas de bêtises, parce que ça me paraît important, voire indispensable de militer pour le logiciel libre et qu'on peut pas militer tout seul et qu'on a besoin d'organisations et d'associations comme l'April pour le faire tous ensemble. Et il se trouve que c'est en 2023 que l'April était venu me proposer une chronique et que j'avais refusé parce que j'avais pas d'idée. J'avais dit bah super, ça, merci.
On vérifiera.
Mais pas trop, pas d'inspiration.
D'accord.
Et puis après, pendant un an, j'y ai réfléchi. Et au bout d'un an, j'avais des idées. Et donc c'est moi qui suis revenu en disant ah j'ai des idées. Est-ce que ça vous plairait?
Et donc la chronique que tu fais qu'on va entendre tout à l'heure. Alors je vais retrouver parce que toi t'es il y en a qui mettent des titres très courts, hein, comme FHX. Toi, le titre de ta chronique, c'est le truc que presque personne n'a vraiment compris, mais qui nous concerne toutes et tous. Donc, elle aborde quel type de sujet, cette chronique?
Alors, il n'y a pas un mot en trop, hein, dans le titre de cette chronique. on ne peut pas le réduire. Chaque mot compte. En fait, c'est parti, pas d'un épiphénomène, mais d'un truc en particulier. C'est la manière dont scandaleusement on nous a mésinformés sur le RGPD et la manière dont on nous fait croire que le RGPD n'est pas du tout ce qu'il est. Et pour le coup, ça nous concerne vraiment toutes et tous. C'est super important. C'est super important dans notre vie numérique. Et aujourd'hui, notre vie numérique, bah, c'est tout le temps, tous les jours. Et personne comprend, mais on a besoin de savoir. Et donc, en fait, ce que je voulais, moi, c'est faire non pas du prosélytisme, mais de la pédagogie, avoir une chronique didactique qui explique, parce que dans une démocratie, on ne doit pas tolérer ne pas comprendre les règles qui régissent nos vies, et en particulier, dès que ça devient technique, c'est non, mais c'est t'inquiète, c'est compliqué, c'est technique, toi, tu peux pas comprendre. Si. Et alors, le RGPD aussi, pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est vraiment un sujet qui m'a toujours intéressé, moi, depuis 2016. J'ai vu le truc arriver entre 2016 et 2018, je me dis, mais on sera jamais prêt, on va jamais y arriver, et on n'était pas prêt. Mais c'est pas grave, ça me paraissait tellement obscur, et en fait, non, ça l'est pas beaucoup. Alors, je suis allé voir... Aeris, je pense qu'on est plusieurs à connaître ici, qui était pour moi un peu la référence en termes de RGPD. Je pense que il y a personne au monde qui a coquiné autant de gens avec le RGPD. Et donc je lui ai commencé à lui poser plein de questions. Et ce que j'ai compris en fait, c'est que c'était pas si dur que ça et qu'avec un tout petit peu d'effort, ces sujets, tout le monde peut les comprendre. Et donc on ne doit pas accepter de ne pas les comprendre. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire ici une fois par mois, c'est d'expliquer des sujets qui nous concernent toutes et tous, qu'on n'a pas vraiment compris. mais qu'il faut qu'on comprenne.
Ok, mais on verra tout à l'heure si tu y arrives dans ta chronique. Hein. J'ai juste rappelé que RGPD, c'est Règlement Général sur la Protection des Données. Et donc ta chronique proche, juste après, ça va être là-dessus, sur un des sujets. Pour conclure, parce qu'après, il y a G qui est à distance. Est-ce que tu as une actu, une annonce?
Alors, oui, en fait, non, une annonce, non, mais une actu, oui, c'est soutenir le libre tout le temps, partout, refuser les logiciels propriétaires tout le temps, partout, chaque jour. Et c'est vraiment un combat qui, aujourd'hui, dans le contexte géopolitique actuel, ne peut pas être mis de côté. On peut pas dire, oh, c'est pas grave, on verra plus tard.
Ok, mais c'est un bel appel, surtout au moment où Framasoft, l'April et la Quadrature du Net sont en campagne de financement, même si on sait que les temps sont difficiles pour tout le monde. Alors, oui, vous mettez vos casques. Florence a mis son casque parce qu'effectivement, G, dernier intervenant, est à distance. Alors, on va voir si la technique est avec nous. Bonsoir, G.
Salut.
Ah, est-ce que tu peux monter un peu le son, s'il te plaît, Étienne? Merci.
Ah, je crois que tu me parlais, c'était avant de monter le son.
Bon, je sais pas qui doit monter le son, mais en tout cas, voilà, c'est le son est bon, Étienne? Ok. Écoute, célèbre chroniqueur également dans Libre à vous. Donc déjà, première question de présentation rapide. Hein, qui es-tu, G?
Alors moi, je suis auteur-dessinateur. Maintenant, c'est mon activité principale. Mais de base, moi, je suis développeur de formation. Donc je suis même docteur en informatique, pour ne rien te cacher. Et on me connaît pas mal sur internet justement pour mes BD, notamment j'en avais fait une il y a quelques années qui s'appelait Le Dictionnaire, qui avait eu son petit succès dans le milieu libriste, et puis depuis quelques années c'est une BD qui s'appelle Grisbouille que je publie assez régulièrement maintenant. Voilà.
D'accord. Alors comment t'as connu le logiciel libre? Alors, comme tu es docteur en informatique, je suppose que c'est pendant tes études?
Oui, mais c'était vraiment au tout début, c'est-à-dire en fait moi c'était pendant ma première année de prépa, c'était en 2006-2007, et à ce moment-là il y avait j'avais un nouvel ordinateur en fait qui avait Windows XP à l'époque, et qui il y avait un autocollant qui disait que l'ordinateur était compatible avec Vista qui allait sortir, super, et sauf qu'à ce moment-là on a eu les premiers retours sur Vista qui étaient un peu désastreux, et c'est à ce moment-là que j'ai un ami en fait qui m'a dit plutôt que Vista tu pourrais mettre Ubuntu. Il m'avait dit Linux, mais après il m'a expliqué qu'il y avait plusieurs distributions et tout, et il m'avait conseillé de mettre Ubuntu, ce que j'avais mis, et c'est un peu comme ça que j'ai mis le doigt dedans, quoi. C'est grâce à Windows, comme beaucoup de monde finalement.
Oui, pas mal de gens ont commencé effectivement, notamment cette génération, par Ubuntu, les plus anciens, et ayant souvent commencé par Debian ou voire Mandrake, dont on a parlé tout à l'heure. Et l'April, comment tu as connu l'April?
Eh ben, je ne m'en souviens pas. En fait. je pense que, en fait, ça fait partie des institutions, on va dire que. Je pense que j'ai dû découvrir à peu près dans ces eaux-là. Enfin, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu depuis que je connais le libre, en fait, quoi. Donc, c'est un peu comme Framasoft, la Free Software Foundation, la Quadrature, tout ça, toutes ces assos que j'ai l'impression de connaître depuis un peu toujours. Alors, pas toujours, parce qu'avant de connaître le libre, je les connaissais pas, évidemment. Mais non, je t'avoue que je ne me souviens pas. Je sais qu'à l'époque, je m'étais abonné à un truc qui s'appelait le Planète Libre. Je sais pas si ça existe encore, ce truc, d'ailleurs. Qui était un agrégat de, un planète, quoi. Un planète, apparemment, c'est un logiciel qui regroupe les flux de plusieurs blogs. Et je sais que j'ai connu pas mal de choses comme ça. Alors je sais plus si l'April était faisait partie de ce planète, tu pourras peut-être me le dire, mais c'est peut-être par ça du coup.
Alors en tout cas nous il y avait un planète.april.org qui regroupait les flux RSS de membres. Alors actuellement il est plus en ligne parce qu'il est cassé, il doit être réparé. Mais donc probablement que c'est comme ça que tu nous as connus. Donc aujourd'hui donc tu as rejoint l'April, tu ne te souviens plus exactement quand. Donc outre tes talents de chroniqueur dans Libre à vous dont on profite chaque mois, aujourd'hui c'était plus le talent dessinateur qui nous intéressait, parce que on te met à contribution sur tes talents de dessinateur, notamment pour les illustrations de pages sur le site web par exemple pour les événements, mais aussi dans la campagne du Lama Déchaîné. Donc qu'est-ce que tu fais exactement à ce niveau-là?
Je m'occupe un petit peu de la partie j'allais dire graphique, mais c'est plus compliqué parce que l'illustration et le graphisme c'est deux choses pas totalement similaires, mais oui, c'est-à-dire de produire des illustrations qui sont pertinente d'un point de vue libriste et normalement un peu drôle, un peu satirique, on va dire. Donc effectivement, il y a deux choses. Il y a le Lama déchaîné, donc la campagne qu'on est en train de mener cette année comme l'année dernière, qui donc est sous forme d'une espèce de gazette en fait, hein, qu'on fait toutes les semaines. Et c'est vrai que je m'étais dit, quand on a commencé à discuter de ça, bah c'est pas idiot de mettre un petit dessin comme il y a la caricature dans n'importe quel journal que de presse hebdomadaire ou que tu peux trouver, quoi. Donc il y a ça, et après il y a des illustrations que je vais faire et qui sont souvent un peu plus fouillées, on va dire, qui sont souvent en couleur avec alors que les illustrations du lama déchaîné, c'est vraiment du noir et blanc en mode caricature. Donc les illustrations un peu plus fouillées que je fais pour illustrer des choses plus générales dans l'April, j'ai fait des illustrations pour l'annonce des événements, bah j'ai fait évidemment le lama en l'occurrence qui est devenu une petite mascotte comme ça. Donc voilà, il y a un peu ces deux choses là. C'est vrai que j'ai de temps en temps un message de Isabella par exemple qui me dit on aurait besoin d'une illustration pour tel type de message sur Masto, est-ce que tu peux en faire un petit? Et donc c'est le genre de choses que je fais, quoi.
Alors c'est clair que depuis ton arrivée, nos communications se sont égayées de dessins qui sont à la fois jolis et plein d'humour. Il suffit Merci. D'aller voir notamment donc dans chaque lama déchaîné, par exemple, pour prendre un exemple, donc les gens qui veulent découvrir, vous allez sur april.org et vous allez, c'est le premier bouton, je crois, c'est le lama déchaîné. En fait, il y a plusieurs dessins, mais notamment il y en a un qui illustre l'édito textuel. Donc par exemple demain, donc on sera le 19 novembre, l'édito parle de, je crois, de quitter Google et compagnie, et toi tu as fait un dessin qui illustre l'édito et qui est à mourir de rire, quoi. Donc et c'est vrai que, alors que l'April a toujours eu une image un peu austère en fait, hein, parce que c'est vrai qu'on est quand même les rois et les reines de la publication de textes très longs, d'analyse sans aucune image. Toi tu apportes une touche de fun, d'humour en fait, et ça c'est quand même très très bien. Est-ce que tu mets beaucoup de temps à faire, par exemple, un dessin par rapport à l'édito du lama?
Alors non, techniquement non, puisque comme c'est des dessins, justement c'est ce que je disais, c'est des dessins un peu en mode caricature, c'est les trucs que historiquement j'ai toujours un peu fait, et à la base moi j'avais adopté ce style à l'époque du Geekctionnaire, donc ça remonte, hein, j'ai ouvert ça, c'était en 2009, j'avais pris ce style justement parce que j'avais à l'époque l'idée un peu farfelue de faire un article tous les jours, et donc il fallait pas que ça me prenne 3 heures par jour, parce que je faisais mes études, enfin j'avais pas que ça à faire, quoi. Donc non, c'est assez rapide, en fait ce qui va être finalement le plus long, c'est souvent de trouver la bonne idée de quoi faire. Donc pour le lama déchaîné, ça consiste à bien lire l'édito, à bien piger ce que ça raconte, et puis après essayer de trouver une illustration qui soit à la fois en rapport avec l'édito et en même temps qui apporte un truc un petit peu drôle. Donc là je vais pas révéler du coup celui de demain, mais
tu peux hein.
Disons que c'est en rapport avec Alphabet, donc Alphabet qui est la maison mère de Google. Donc évidemment l'idée c'est de faire un jeu de mots avec le fait que Alphabet, ce soit comme souvent chez les grosses boîtes, un mot commun qui devient un petit peu une marque, alors qu'à la base un alphabet c'est un alphabet, on est bien d'accord, comme Apple c'est une pomme, bon, voilà. Donc c'est basé là-dessus.
Là, si je me souviens bien, en fait, c'est un personnage qui doit être qui doit exercer le métier de prof et qui demande aux élèves de réciter leur alphabet, et plutôt que de faire A, B, C, c'est Apple, Google, etc. C'est bien ça, hein?
Oui, effectivement, mais sauf que c'est à chaque fois des services de Google.
C'est des services de Google, d'accord.
Donc c'est Android pour A, B, C, Books, je crois. Alors j'ai cherché d'ailleurs sur internet, est-ce qu'il y avait un service de Google par lettre, y en a pas mal. Je me suis arrêté dans l'image à I, parce que j'ai rien trouvé pour J. Il y a vaguement un truc qui s'appelle Google Jobs, mais c'est pas vraiment le vrai titre, donc je me suis arrêté à I avec Google Images, quoi.
Après, dans tous les produits qu'ils ont lancés à arrêter, peut-être qu'il y a de quoi trouver. Bon, je pense que la page Wikipédia de Google doit être. Mais bon, on va arrêter la pub de Google. En tout cas, lisez le lama déchaîné, vous allez vous marrer, franchement. J a un grand talent là-dessus. Et je vais préciser aussi qu'on peut te commander, te passer des commandes, en fait, par rapport à si on a une idée. Moi, je l'ai fait, par exemple, il y a l'an dernier. J'avais un besoin. Et je t'ai dit le besoin et tu m'as produit quelque chose. Et donc là, effectivement, là, c'est sous forme de prestation. Donc tu vis de ta, enfin, tu es, en tout cas, tu essayes de vivre de tes talents de dessinateur.
Oui, c'est ça. Alors après, les commandes, à l'heure actuelle, ça représente pas un énorme, une énorme fraction de mes revenus. Moi, mes revenus principaux, c'est comme pas mal de gens qui publient sur Internet, c'est du financement participatif. Donc c'est des gens qui font des dons pour que je continue à produire de l'art sous licence libre, parce que je sais même pas si on l'a précisé, mais évidemment, tout ce que je produis est sous licence libre. Bah, de toute façon, pour l'April, ce serait non négociable, je pense. Mais même en dehors de ça, tout ce que je fais est sous licence libre. Donc voilà, il y a des gens qui supportent ce genre d'initiative et qui donnent, et je les en remercie énormément.
Non, mais tu as raison de préciser, parce qu'effectivement, ça nous paraît naturel, mais c'est important de préciser que c'est sous licence libre ce que tu produis. Le Lama Déchaîné est sous licence libre, comme les émissions de radio qu'on diffuse, comme les pauses musicales qu'on diffuse. On va diffuser une pause musicale juste après. Elles sont sous licence libre. Alors, ça, c'est le côté sans doute qui t'amuse le plus dans l'April, mais tu es aussi, t'as des responsabilités quand même, parce que tu es aussi membre du conseil d'administration de l'April. Alors, est-ce que c'est une activité qui te plaît, ou simplement tu l'as fait par, entre guillemets, par devoir?
Alors oui, c'est plutôt une activité qui me plaît. Enfin, en fait, je trouve ça toujours gratifiant de s'impliquer dans l'associatif, de manière générale, je veux dire, pas juste dans le libre. Après, moi, c'est vrai que, mais j'ai le même truc avec d'autres assos dans lesquels je suis, c'est le fait de se tenir à jour sur les discussions par mail, c'est pas toujours simple. Donc, y en a pas mal. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à être silencieux et au bout d'un moment à rattraper les 35 mails que j'ai pas vus depuis quelques jours. Et c'est vrai que je pense que ça peut m'arriver de louper des choses importantes, mais j'essaie d'être assidu de ce point de vue-là. Mais après, c'est vrai que toutes les discussions qu'on peut avoir, c'est vrai que moi, j'aime bien les discussions de vive voix qu'on peut avoir quand on fait des réunions, quand on fait l'AG, tout ça. Moi, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Et puis voilà, le fait de pouvoir s'investir. Alors, je pourrais m'investir dans de la Lama Déchaîné sans être OCA, hein, c'est sûr, mais d'être OCA, ça permet d'être un peu aux premières loges de ce qui se passe finalement, de ce qui se décide en termes de campagne. Donc ça, effectivement, moi, je trouve ça super chouette. Ouais.
C'est bien que tu précises ça, parce qu'effectivement, la quasi-totalité des activités de l'April peuvent être menées sans être membre de l'April. Oui. En fait, d'ailleurs, il y a des gens qui sont absolument pas membres de l'April, qui tiennent des stands de l'April, qui contribuent par exemple à des traductions et autres. C'est absolument pas une obligation, et ça, c'est voulu comme ça, même si certaines deviennent membres de l'April. En tout cas, voilà, si les personnes qui nous écoutent souhaitent contribuer d'une façon ou d'une autre, hein, il y a plein de façons de contribuer. Vous allez sur april.org, sachez que vous n'avez pas besoin d'être membre de l'April. Même question que tes camarades, est-ce que tu as une actu ou une annonce à partager?
En plus, j'ai écouté les autres, mais je suis quand même pris au dépourvu par la question. Écoute, moi, j'ai toujours un peu des trucs à annoncer parce que j'ai mon blog qui tourne assez régulièrement. Il y a eu une nouvelle BD ce matin qui est sortie. Que te dire? Ah, un truc, bon, je sais pas si c'est vraiment une exclu parce que j'en ai déjà un peu parlé à certaines occasions, mais j'ai un bouquin pour enfants qui est sur le feu, ce que j'ai jamais fait. Plutôt pour jeunes enfants, hein, genre album, tu vois, album avec les images et le texte en dessous que tu lis à tes jeunes enfants avant
d'aller
dormir.
D'accord. Donc pour Noël, quoi.
Et d'ailleurs, donc il sera sous licence libre et qui a été relu et avec commentaires par notamment Bouquinette, qui est présidente de l'April et qui est libraire, et donc c'est pour ses activités de libraire que je l'ai sollicité, voilà.
D'accord. Et ça sera disponible pour Noël, enfin ce Noël 2025 ou le prochain?
Non, ça sera pas disponible pour ce Noël. Là, je suis un petit peu. Ce sera un petit peu trop court là pour le sortir. C'est pas prêt. Donc non, ça sortira probablement début 2026. Je sais pas encore trop quand. On va voir.
D'accord. Ok. Il doit nous rester une minute ou deux. Est-ce que quelqu'un, l'une ou l'autre, vous souhaitez ajouter quelque chose, ou même Étienne, je sais pas si t'as envie, voilà, avant qu'on passe la pause musicale et qu'on attaque la chronique de Benjamin. Est-ce que non, ou G. Alors, je précise aux gens qui nous écoutent, ils sont en train de se regarder, ils sont en train de se regarder en se disant, bah non, il avait pas prévu qu'on pourrait rajouter quelque chose après.
Écoute, moi non plus.
Toi non plus.
Je peux rajouter ce que
vas-y,
je
veux. Vas-y, Étienne.
Sur les stands, puisque Eva en parlait tout à l'heure, moi, ce week-end, j'ai le plaisir, j'étais au Capitole du Lead. Donc, moi, je suis un des salariés de l'association, je m'occupe du plaidoyer politique. Et j'avais le plaisir d'être au Capitole du Libre, organisé à Toulouse tous les ans, qui est un événement majeur du logiciel libre. Je pense que pour l'April, je dois aller, on va dire, sur deux événements de ce type par an. Et moi, j'ai un grand plaisir aussi à passer du temps sur les stands. Alors, ça veut dire que je vais pas voir les conférences, mais les conférences, je peux les rattraper après en vidéo, car souvent, ce genre d'événement, c'est enregistré. Et moi, j'adore être sur les stands aussi parce qu'on rencontre des gens, que ça nous stimule. Alors, on présente l'April et on a ce savoir-là, mais souvent, on reçoit aussi beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, et je trouve que c'est vraiment des moments assez riches de ce point de vue-là. Puis après, j'ai plaisir aussi, du coup, à rencontrer rencontrer des bénévoles lors de ces événements. Donc bah, j'encourage vraiment les gens qui hésiteraient à aller sur un stand à franchir ce pas comme Eva a pu le faire. Moi aussi d'ailleurs, quand j'ai commencé, j'étais pas du tout à l'aise, et maintenant je prends vraiment plaisir à le faire.
Et j'ai précisé que c'est une des façons pour les personnes qui ne sont pas, parce que l'équipe salariée est à Paris, mais beaucoup de choses se passent dans d'autres régions. Donc une façon de contribuer à l'April, c'est de tenir un stand dans un événement local. Et notre collègue Isabelle Avani prépare beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle envoie de la documentation, des explications. Donc voilà, il faut pas hésiter. Il y a des événements sur lesquels on n'est tout simplement pas parce qu'on ne les connaît pas. Mais si vous êtes dans une région de France et que vous souhaitez tenir un stand libriste, même libriste globalement, mais n'hésitez pas à nous contacter. On a de la documentation, on a de l'aide, et puis il y a toujours des gens sur place qui pourront aider. Donc ça, c'est important, et c'est vrai qu'on doit faire peut-être une quinzaine d'événements dans l'année, une 10-15 événements dans l'année, et ça, c'est possible uniquement parce qu'on a des bénévoles qui tiennent ces stands. Bah, écoutez, je vais vous remercier. Chacune et chacun, vous pouvez rester évidemment pour écouter la chronique de Benjamin, et